Donc ce matin, j'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous. Je pense que c'est important de s'arrêter, d'aussi de Dieu nous apparaît de plusieurs manières ce matin. Il y a eu la louange, il y a eu des paroles. Je pense que Dieu va encore continuer à nous parler ce matin. Et j'aimerais vraiment prendre un texte qui parle d'un disciple qu'on ne connaît pas trop bien, pas souvent. On parle de lui. On parle souvent de Pierre, on parle souvent de Jacques, de différents disciples comme ça, mais celui-là, il est un peu moins connu. Il s'appelle Philippe. Et voilà, donc c'est un disciple... Attendez, je vais parler de lui, il faudra voir si on dit amen. Ah oui, mais parce qu'il y a des Philippes ici, c'est vrai. Il y a plusieurs Philippes ici, ouais, c'est juste. Alors, c'est pas pour vous, hein, que pour vous, hein, si jamais. Et Philippe, c'est un petit peu un disciple... Je pourrais dire un peu comme Thomas, peut-être pas incrédule, mais un peu lent à comprendre. D'ailleurs, si jamais tous les disciples sont un peu lents à comprendre, hein, si on regarde bien ce qui se passe, juste après la résurrection, vous savez, il y a un moment donné, il y a les femmes qui viennent vers les disciples et qui disent « il est ressuscité », puis disent « ils prirent leurs paroles comme des niaiseries hein, » et ils ne crurent pas qu'il était ressuscité. Donc voilà. Donc voilà, ils sont un peu tous lents à comprendre, mais Philippe, il est un peu plus en dessous de la moyenne, on va dire. Et c'est vrai que je pense que c'est aussi un personnage qu'on peut retrouver dans l'Église, dans nos vies, à différents moments. Donc on va lire dans Jean 14, les 14 premiers versets. Jean, l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 1 à 14. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est Jésus qui parle. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi, et où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment saurions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, a vu le Père. » Comment dis-tu ? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Croyez en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Des beaux versets, n'est-ce pas ? On connaît souvent la fin, hein, tout ce qu'on demande à Jésus, mais on ne connaît pas trop le début. Alors c'est vrai qu'on est là dans un temps particulier. C'est un temps où Jésus est en train de préparer le repas de la scène et quelques temps après, il va être crucifié. Donc c'est vraiment le dernier moment où il est avec ses disciples. Et c'est un temps qui est bien développé par l'évangile de Jean. Jean, il consacre 6 chapitres, en fait, à ce temps où Jésus est avec ses disciples. C'est vraiment un temps d'intimité. Il en consacre plus que d'autres évangiles. Et donc c'est le chapitre 13 à 17. Dans ce temps avec les disciples, Jésus va leur laver les pieds, donc c'est là aussi c'est raconté dans l'évangile de Jean. Il leur parle de la promesse du Saint-Esprit qu'il va envoyer. Forcément, il va partir, donc il leur annonce déjà ce qu'il va leur envoyer, le Saint-Esprit, le Consolateur. C'est aussi dans cette partie-là qu'il parle du cep et des sarments, etc. Donc Jésus va quitter ce monde. Et il va laisser tous ses disciples. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? il leur donne l'essentiel. Il leur rappelle l'essentiel. Il veut leur laisser le plus important avant de partir. Ce qu'ils doivent vraiment retenir, quelque part. On dit que les mourants, ceux qui vont mourir, ceux qui vont dire juste avant de mourir, c'est souvent le plus important. Parce que quand on va mourir, à la fin de sa vie, en général, on va pas dire des banalités, vous êtes d'accord, hein ? On va pas dire, vous imaginez, un couple, le mari meurt, on va pas dire, écoute chérie, n'oublie pas d'arroser les plants, c'est moi qui le faisais. Non, on va peut-être faire une synthèse de sa vie, on va dire vraiment l'essentiel, vous êtes d'accord ? Enfin. Et donc là, Jésus, il est là avec ses disciples et il va partir. Donc il leur laisse l'essentiel. Et il veut voir aussi s'ils ont bien tout compris. Mais on va voir que Thomas et Philippe, c'est des mauvais élèves. Ils n'ont pas fait veau sur scène, sans doute, mais c'est des mauvais élèves. Ils n'ont pas tout compris. Parce que si vous regardez bien dans le texte, il leur dit, Thomas leur dit, enfin, Jésus dit, mais vous savez où, vous en savez le chemin, où c'est que je vais? Puis Thomas dit, mais non, j'en sais rien. Dis-moi le chemin. Et là, Jésus dit ce verset qu'on connaît bien, je suis le chemin, la vérité, la vie. Après, Philippe, après avoir expliqué ça, Jésus peut-être en rajoute encore, dit encore quelque chose, il dit, mais si, Thomas, si tu me connaissais, tu connaîtrais aussi Dieu, et tu le connais, Dieu, tu l'as déjà vu. Parce que Jésus, c'est Dieu, et enfin, voilà. Et Philippe lui dit, tout de suite, il reprend derrière, il dirait, mais montre-nous le Père, montre-nous Dieu. Il n'a encore rien compris. C'est quand même fou. Il leur explique, mais il dit, je suis, le Père est en moi, et moi je suis dans le Père, et tu dis que t'as pas vu le Père, t'aimerais voir le Père. Donc vous voyez, c'est un petit peu, il essaye de, c'est un petit peu un quiproquo là. Jésus essaye vraiment de, va au fond des choses avec eux. Alors je me suis interrogé, qui était Jésus pour Philippe, finalement? Qui il était? On va voir un petit peu quelques passages dans l'évangile de Jean qui vont montrer Philippe dans certaines situations et on va mieux comprendre comment Philippe voyait Jésus. Vous êtes d'accord? On va regarder au début chapitre Jean, de l'évangile de Jean, au chapitre 1. Jean au chapitre 1, c'est l'appel des disciples et il est parlé de Philippe. Il y a eu au verset 35, il y a eu la Pierre, enfin Pierre et André un peu plus loin qui sont appelés par Christ. Et on voit au verset 43, le lendemain, Jésus donc voulut se rendre en Galilée et il trouva Philippe. Jésus lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe trouva Nathanaël. Donc on voit que Philippe a été appelé par Jésus, et on voit qu'il venait du même coin que André et Pierre. Donc un lieu où il y avait beaucoup de gens qui étaient déjà devenus disciples de Jésus. Plus loin, il est dit, Philippe trouva Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui dit, « Viens et vois. » Donc on voit que Philippe, il est un peu dans un processus, il est dans un moment de réveil, si on peut dire. Il y a plein de gens qui se convertissent autour de lui, dans son village, André, son copain d'enfance depuis toujours. Enfin bref, il y a du monde là, et on voit que lui, il est pris dans ce mouvement, il est appelé par Jésus. Mais comment il voit Jésus? Il dit, c'est celui dont on a parlé dans la loi de Moïse et les prophètes. Je pense qu'il savait qu'il se passait quelque chose. Il savait que ce Jésus, c'était un personnage exceptionnel. Mais est-ce qu'il voyait encore que c'était Dieu, c'était le Fils de Dieu qui était venu pour sauver l'humanité? Je suis pas sûr. Et on voit que dans une autre scène, on va voir encore ce Philippe, comment il voit Jésus, comment le rapport qu'il a avec lui. On va regarder au chapitre 6 de l'évangile de Jean. On fait un peu travailler ce matin. Désolé. Chapitre 6. C'est ce fameux passage de la multiplication des pains. On le connaît tous, hein. C'est Jésus qui enseigne, et il y a une foule qui est là, le soir tombe, et il faut renvoyer les gens chez eux, et Jésus propose qu'on leur donne à manger. Et au verset 5, il s'adresse à Philippe, et lui dit la chose suivante. « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Je rappelle qu'il y a 5000 personnes, hein. Donc c'est pas 2-3 personnes. Alors la réponse de Philippe, une réponse tout à fait cartésienne, humaine, normale. Jésus dit qu'il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. C'est pas très sympa, hein. Jésus veut l'éprouver. Alors Philippe lui répond, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun reçoive un peu. » Un denier, à l'époque, ça représentait une journée de travail. Donc 200 deniers, ça représente beaucoup. Des mois et des mois de boulot. Donc Philippe, il dit, mais on a, même si on avait 200 deniers, dans l'hypothèse qu'on en ait, eh bien ça suffirait peut-être même pas à nourrir toute cette foule. Qu'il est pratique, Philippe. Parce qu'il réfléchit, j'allais dire, normalement, humainement. Vous connaissez la suite. Il y a André, un autre disciple, son ami, il dit, il y a un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons, et vous connaissez la suite. Et en fait, si on réfléchit bien, on voit que André met sa foi en Jésus avec les 5 pains et les 2 poissons qu'il y avait. Il met vraiment cette foi en Jésus. Il s'attend à Jésus. Il sait que humainement, c'est impossible. Philippe, lui, il est plus cartésien. Il réfléchit, il se dit, mais il n'a pas ce rapport, j'allais dire, un peu de foi directe avec Jésus, de se dire, mais Jésus, il est tout puissant, c'est Dieu avec nous, tout est possible avec lui. Il ne faut pas trop le juger, Philippe, hein, il n'est pas si méchant que ça, hein. On va voir après. Mais... Et on arrive à ce chapitre 14 que je vous ai lu, où il y a cette confrontation où quelque part, Philippe est là face à Jésus. Et Jésus qui lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Et quelque part, Philippe, c'est un disciple qui ne connaissait pas complètement Jésus. Parce que connaître dans le sens biblique, ça a un sens beaucoup plus fort que dans notre langue française. Si je vous dis... Est-ce que vous connaissez un grand personnage, disons Nicolas Sarkozy? Bon, ça, c'est, vous le connaissez quand même, hein, on l'entend déjà assez aux nouvelles. Vous allez me dire, vous le connaissez? Il y en a qui sont prudents. Bon, alors, dites, si vous dites oui. Voilà, de vue. Bah, quand c'est que vous êtes allé boire un dernier verre avec lui? Est-ce qu'on le connaît vraiment? Je pense qu'on ne le connaît pas au sens biblique. On le connaît... J'allais dire, intellectuellement, on a une information sur lui. Et il faut faire une différence entre connaître et savoir. Il y a vraiment une différence. Connaître, dans le sens biblique, c'est connaître avec une intimité. C'est connaître avec profondeur. C'est plus qu'un savoir. Bien sûr que connaître, ça inclut le domaine du savoir, ça inclut le domaine de la raison, de la pensée. Mais ça va plus loin. Il y a une expérimentation aussi dans ce mot « connaître » dans le sens biblique. Ça peut aller même très loin. Si vous regardez un petit peu dans l'Ancien Testament, quand il est dit que Adam connut Ève, ça veut dire quoi? Qu'ils eurent des relations sexuelles. Vous avez vu la profondeur de la relation, ça va jusque-là. C'est quelque chose de très intime, connaître dans le sens biblique. Et Philippe ne connaissait pas Jésus. C'est un type de chrétien, des fois. Et j'étais un peu comme Philippe. J'ai eu la chance de grandir dans un milieu chrétien. La chance d'avoir des parents chrétiens. J'allais dire même, comme Astérix, je suis tombé dedans quand j'étais petit, dans la marmite, là. Et, ah, c'est Obélix, oui, c'est vrai. C'est Obélix. Comme Obélix. Et j'ai baigné là-dedans. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir des parents que j'ai vus à genoux crier à Dieu, de ne pas avoir été soumis à un enseignement d'incrédulité. Et il faut dire qu'on habitait quand même au Centrafrique et on n'habitait pas la capitale, justement. C'était pas la plage, c'était vraiment dans la brousse et on était à 200 km de l'hôpital le plus proche. Et c'est vrai que les serpents, tout ce que vous voulez, tout ce monde-là, les mygales... C'est quand même la forêt amazonienne, enfin la forêt équatoriale. Amazonienne, c'est la même, hein, c'est juste qu'elle est de l'autre côté, hein, sur un autre continent. Et parce que mon père était missionnaire parmi les Pygmées, qui vivent dans la forêt, en fait. Donc, il s'est approché le plus proche d'eux. Donc, on avait construit une maison là. Et on a vraiment vu la protection de Dieu, très, très vite. Et parce qu'on était démunis là-bas. Des fois, mon père, il partait en tournée, parce que c'est un peuple nomade, pendant plusieurs semaines, des fois. Et il laissait ma mère et les quatre enfants, comme ça. Donc, il faut avoir la foi, hein, je vous dis tout de suite, hein. Il n'y a pas SOS dépannage, les médecins, tout ça. Et on a vraiment vu la protection de Dieu. Donc, moi, je suis né dans un milieu... Je ne pouvais pas être athée. Je ne pouvais pas croire que Dieu n'existe pas. Ce n'était pas possible. J'ai tellement vu la protection de Dieu. Je me rappelle encore une fois la foudre qui était tombée sur notre maison et qui était rentrée dans notre maison. Et ma sœur qui était là... Enfin, il y avait quelqu'un déjà à l'entrée de la maison qui était sur un banc. Il a entendu une voix dans son cœur. Il dit « Lève-toi ». Tout de suite, comme quoi il faut obéir des fois au Seigneur, hein. Faut pas attendre. Hein. Il s'est levé et la foudre est passée. Quelques secondes après, tac, elle a cassé le banc, elle était juste là où il était assis. Ma sœur qui était travaillée à la fenêtre, elle est rentrée. Ma sœur s'était levée pour demander un renseignement à mon frère. Et juste après, la foudre est passée, a cassé la table. Et puis ressorti par une autre fenêtre et à ça de la tête de mon autre sœur. La protection de Dieu, c'était miraculeux. Certains diront c'est une coïncidence, c'est la chance. Mais vraiment, on a vu Dieu à l'œuvre. Un collaborateur de mon père qui avait marché sur un serpent venimeux, mais déjà tout le village était parti, savait qu'en quelques secondes, il allait mourir. Ils étaient déjà allés chercher, préparer le cercueil pour venir le rechercher. Pas de bol, il était pas en pleine forme, il a passé une mauvaise nuit, il a vomi toute la nuit, mais il est pas mort, quoi. C'était miraculeux. Donc j'ai vraiment vu ça et ça s'est pas arrêté. Je suis rentré, mon père était responsable d'une œuvre chrétienne où il y avait des conventions, où il y avait une école biblique missionnaire sur 2 ans. J'ai entendu des orateurs toute ma jeunesse, des hommes de Dieu incroyables. Donc j'ai touché à ce monde-là, mais il y a un moment donné, j'avais envie de dire, tout ça c'est bien beau, mais c'est les autres qui le vivent. C'était pas ma foi. J'y vivais ma foi par procuration. C'était la foi de mes parents, la foi de ces grands hommes de Dieu, mais c'était pas ma foi. Je connaissais pas vraiment Jésus. Oui, je le connaissais. J'avais entendu parler de lui. Et il a fallu un moment vraiment que je crie à Dieu, enfin, je passe les détails. Et un moment dans ma vie, vraiment, je me disais, mais je suis passé par une situation, et je disais, mais si Dieu, tu existes, il faut que tu interviennes. Et ça, le cri du cœur, Dieu, il entend. Et c'est là que je passe aussi les détails. J'ai vraiment expérimenté la puissance de Dieu dans ma vie au cours d'une réunion. Et vraiment, tout a changé à ce moment-là. C'est vraiment passé quelque chose. Et je me rappellerai toujours, après cette rencontre, j'étais allé voir ma sœur et je lui ai dit, mais Dieu, c'est vrai, quoi. C'est pas des... C'était... Je me rappelle encore en train de lui dire ça, quoi. C'est pas que des paroles. C'est vrai. J'avais rencontré vraiment Jésus. Mais j'avais grandi dans ce milieu chrétien, et à un moment donné, je me suis fait baptiser aussi. Mais je ne pense pas que je connaissais vraiment Jésus à ce moment-là. Et je dis ça aussi parce que je vois qu'il y a beaucoup de jeunes aussi dans cette église. Et je me dis, mais c'est super d'être jeune et de connaître Jésus jeune, mais laissez-les avancer à leur rythme. Ne leur mettez pas la pression, parce que c'est tellement vite fait de dire, mais c'est super. Ils sentent très bien que si je me fais baptiser ou si je fais ci, ça va plaire à tout le monde. Hein? Il y a cette pression qui est là. Moi, je me rappelle que j'étais il y avait des études dans l'école biblique, j'étais le fils du directeur, et ils s'essayaient un peu sur moi, quoi. Hein. Ils essayaient de me parler de Jésus tout le temps et que je devienne chrétien. Et je sentais cette pression qui était là. Et laissez-leur prendre leur temps, avancer avec Dieu, laissez-leur vivre quelque chose avec Dieu. Priez pour eux, ça ne leur empêche pas de prier. Mais ne mettez pas de pression. Je pense que Dieu les fait les choses en son temps. Dieu n'est jamais en retard, n'est jamais en avance, il est toujours là au bon moment. Et là, je pense que Philippe, il était comme ça. Il avait André de son village qui s'était converti, il savait, il connaissait, il est né dans l'église, il était juif, il est né dans la synagogue. On parlait des prophéties qui parlaient de Jésus. Mais il avait compris que Jésus était important, mais il n'avait pas compris que Jésus était la clé de tout. Et c'est ça que j'aimerais encore dire ce matin, c'est que, et c'est la deuxième partie, c'est que Jésus... C'est le centre. Et je crois que le diable, il aimerait bien des fois qu'on mette Jésus de côté. Surtout dans l'église. Même dans l'église, surtout. Parler de Dieu dans le monde, par exemple, il n'y a aucun problème. Parler de Jésus, c'est plus difficile. Et dans l'Église aussi, Jésus n'est pas toujours au centre. Dans certaines églises, si vous allez visiter, ils sont des fois spécialisés dans certains domaines. Spécialisés dans, des fois, la démonologie, des fois même dans la guérison. Et je trouve que c'est des bonnes choses. Mais si l'accent est mis que sur ça, quelque part, on passe à côté de quelque chose. Et surtout, on entend peu parler de Jésus dans ces églises un peu spécialisées. Et je pense qu'il faut vraiment comprendre, et c'est ce que Jésus voulait dire ici à Philippe, se centrer sur lui. Si je vous donne une image, si on prend par exemple l'image de la roue, l'axe d'une roue est toujours au centre, vous êtes d'accord? Si elle n'est plus au centre, c'est dans les cirques qu'on voit ça. C'est voilà. Et quelque part, vous n'allez pas faire 200 km avec ça. Ça va être rigolo, vous allez amuser les gens un petit moment, mais ça ne va pas être utile. Ça tourne pas rond. Pour que nos vies tournent rond, il faut que Jésus soit au centre. Il faut que l'axe soit au centre. Et c'est Jésus. Pour que nos églises tournent rond, il faut que Jésus soit au centre. Et c'est ce que Jésus est en train de dire à Philippe. Reste centré sur moi. Il dit en vérité, je vous le dis, dans le passage suivant, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. On peut faire des œuvres plus grandes que Jésus. C'est ce qu'il est en train de nous dire. C'est incroyable. Comment ? Grâce à l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous. Mais dans ce verset, ce que Jésus est en train de dire, si on voit ce qu'il y a avant, Jésus montre qu'il est la clé de cette plénitude de l'Esprit. Que c'est par lui, c'est grâce à lui qu'on peut recevoir cet Esprit, c'est grâce à lui qu'on peut faire les œuvres qu'il fait. Je dis souvent, Pâques vient avant Pentecôte, et pas le contraire. On ne peut pas recevoir l'Esprit de Dieu si on n'a pas rencontré le Fils avant, si on n'a pas expérimenté la mort et la résurrection du Fils. Et des fois, on l'oublie un peu. Philippe, il avait un peu oublié ça. Jésus le met un peu de côté, il dit, Jésus, montre-moi le Père. Philippe veut voir le Père qui est invisible. Il veut voir avec ses yeux. Il veut peut-être expérimenter quelque chose, une expérience de plus. Et pourtant, il ne voit pas que déjà, le Père est dans le Fils. Jésus, tout est en Jésus. Il n'est pas centré sur Jésus. Et très souvent, on veut aller plus loin que le Fils. C'est une tendance humaine. On veut sortir des fois un peu notre vie de routine chrétienne. On veut une expérience des fois plus qu'une relation. Je me rappelle que quand j'ai vécu cette expérience qui a transformé ma vie, quand j'étais rempli du Saint-Esprit, au jour de mes 16 ans, j'étais vraiment tout feu, tout flamme pour le Seigneur. Mais vraiment, je passais mes dimanches après-midi à lire la Bible, alors que ça ne m'intéressait pas avant. J'avais une soif pour prier que je n'avais pas avant. Mais il y a un moment donné, et c'était, ah oui, c'était intéressant, c'était en pleine période où il y avait la bénédiction de Toronto, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et moi, j'allais dans ces rencontres-là, parce que j'étais tout feu, tout flamme pour cela. Et je voyais tout ce qui se passait, je me disais, c'est super. Mais il y a un moment donné, je me suis posé la question, surtout quand, je me rappellerai encore toujours cette image, c'était à Mâcon, il y a vraiment un monde fou, et je vais là où il y a les jeunes, l'école du dimanche, et je vois une bande de jeunes, enfin d'enfants plutôt, qui ça montait sur les tables, c'était par terre, tout ça, et puis ils se priaient, ils se filaient la bénédiction. Et je me disais, mais c'est fou quoi, il n'y a pas d'histoire biblique, il n'y a rien. C'est pas possible, c'est une école du dimanche, il y a quand même, les enfants ils aiment ces histoires d'habitude. Ou bien, je ne sais pas, quelque chose. Ils étaient là en train de se prier les uns pour les autres, des enfants de 9, 10 ans, 8 ans. Et je me disais, mais là on va trop loin. Là, on va trop loin. Et bien sûr qu'il y a eu des bonnes choses, sans doute. Mais quelque part, on a mis tellement l'accent sur les manifestations qu'il n'y a plus que ça qui comptait. Il est où Jésus là-dedans? Il n'y avait plus que cette puissance qui devait se filer les uns aux autres. Et je me disais, mais il est où le Jésus incarné dans tout ça? Le Jésus qui s'est fait homme, le Jésus qui est compréhensible, le Jésus qui nous parle. Et je pense que trop souvent, et je pense que la critique qu'on peut se faire dans le milieu charismatique d'où je viens, c'est qu'on met l'accent sur la puissance, l'esprit seulement. Mais j'aimerais dire, il faut remettre Jésus au centre. Il est notre Pâque, il est la parole de Dieu. C'est lui qui donne l'esprit. D'ailleurs, Christ, ça veut dire celui qui a reçu l'onction, celui qui donne l'onction. Parce que Christ, c'est un titre. Jésus, Christ. Jésus, c'est son prénom. Et on pourrait dire Jésus, le Christ, c'est un titre. C'est-à-dire Jésus, celui qui donne le Saint-Esprit, celui qui donne l'onction. C'est vrai que je suis allé hier un petit peu. Je crois que vous êtes de l'église Four Square, hein, c'est ce que j'ai compris. Hein. Vous n'êtes pas de l'église baptiste? J'avais cru entendre. Enfin, alors, c'était avant, d'accord. Alors, moi, je viens un peu d'un milieu un peu similaire que Four Square. Et je suis allé hier voir un petit peu sur Internet, voir un petit peu comment a été fondé le mouvement Four Square. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes avec notre mouvement. Et il y a un slogan des églises Four Square. Vous le connaissez? Le slogan des églises Four Square. Jésus sauve. Jésus guérit. Baptise du Saint-Esprit. Jésus revient. Eh, vous êtes des bons élèves. Et en effet, il y a ces quatre angles, parce que Four Square, ça veut dire l'évangile aux quatre angles. C'est ces quatre angles qui reviennent. D'ailleurs, c'est intéressant. Jésus baptise du Saint-Esprit, c'est écrit. Mais Jésus ne baptise pas d'eau, hein, si jamais. C'est ses disciples qui baptisaient d'eau. Jésus n'a jamais baptisé personne d'eau. Toujours ses disciples. Donc Jésus, sa fonctionnalité à lui, c'est de baptiser du Saint-Esprit. C'est de donner l'Esprit. Et si on regarde ces quatre fondements, ces quatre piliers de l'évangile, aux quatre angles, eh bien, sont basés sur Jésus-Christ, si vous regardez bien. C'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui guérit, et c'est Jésus qui donne l'Esprit, qui baptise du Saint-Esprit, et c'est Jésus qui revient. Ça veut dire que il faut rester proche de Jésus et proche de lui, centré sur lui, et pas sur la puissance de l'Esprit, pas sur l'Esprit. Parce que par lui, on reçoit l'Esprit, par lui, on accède aux bénédictions, par lui, on connaît le Père. C'est extraordinaire. Et Jésus, c'est une clé. C'est comme si on vous donne une clé, et on vous dit, il y a une porte là, et derrière cette porte, il y a des choses incroyables, il y a toutes sortes de bénédictions pour toi. Alors voilà, ben il faut y aller, et puis toi, tu restes avec ta clé, la porte est fermée, tu peux pas, et tu réalises pas que tu as la clé pour ouvrir la porte. C'est tout tourne autour de Jésus. Dieu a fait que tout passe par Jésus. Le monde, il va être, je ne sais plus comment dit le verset, mais que Dieu a tout réconcilié en Jésus-Christ. Et Dieu va tout restaurer. Dieu restaure l'être humain, mais restaure cette nature aussi. Dieu va recréer un nouveau ciel, une nouvelle terre par Jésus. Donc l'œuvre de réconciliation passe par lui. L'œuvre de bénédiction, l'œuvre de salut passe par lui. Et c'est ça que Jésus veut faire comprendre à Philippe. Il veut se faire connaître à lui, dans ce sens biblique, lui montrer qu'il est plus qu'un homme, mais il veut lui dire aussi, reste centré sur moi. Même quand je ne serai plus là, surtout quand je ne serai plus là, parce qu'il y aura bien des tentations pour ne plus être centré sur moi. Il y a un dernier texte qui parle de Philippe, et j'aimerais terminer avec ça. C'est au chapitre 12, verset 21. C'est un jour, il y a des gens, des Grecs en fait, qui viennent, donc ce n'est pas des Juifs, ils viennent de l'extérieur, ils viennent vers... Ils veulent voir Jésus. Il dit, nous voudrions voir Jésus. Et il s'adresse à Philippe, justement. Il y avait quelques Grecs parmi les gens qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'approchèrent de Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui demandèrent, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe allèrent le dire à Jésus. Et vous savez, c'est ce que le monde crie aujourd'hui. Nous voudrions voir Jésus. C'est les cris des gens qui sont là dehors, en dehors de l'église. Alors peut-être qu'ils ne s'en rendent pas toujours compte. Peut-être qu'ils ne le disent pas à haute voix. Mais la pensée de l'éternité, l'œuvre de Dieu, qu'ils voient, crie ça dans leur cœur. Nous voudrions voir Jésus. Alors que Dieu nous donne des oreilles pour entendre, entendre ces cris du monde, nous voudrions voir Jésus. Et vous savez, tous ces gens-là, ils ne veulent pas nos doctrines. Ils ne veulent pas, quelque part, nos dadas spirituels, nos modes. Tout ça, ils n'en veulent pas. Eux, ils veulent voir Jésus. Ils n'en ont rien à faire, tout ça. Tous ces gens-là, ils ne veulent pas voir nos différences, nos dénominations. Ça, ils ne comprennent pas, ça. Ils veulent voir Jésus. Alors, c'est seulement si on le connaît qu'on peut le faire connaître. Et que si on reste centré sur lui et qu'on le montre à ce monde, alors le monde verra. Verra qui est Jésus. Et le monde sera transformé. Et le monde changera. Amen.